Les voix de l'écho.
Salutations chers auditeurs, auditrices de Radio G, bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Je suis Yves Maguin et pendant 50 minutes, nous allons aborder les thèmes de l'entrepreneuriat, de l'écologie, puis du développement économique local et éco-responsable. Cette émission est ponctuée de plusieurs temps forts avec un invité, une ou plusieurs chroniques en fonction des semaines, ainsi qu'une pause musicale choisie par l'invité. Alors, ouvrez grand vos oreilles, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio G. Bienvenue dans l'émission Les Voix de l'Écho. Nous sommes le 66e jour de l'année et nous fêtons aujourd'hui, entre autres, les Colettes. Bonne fête à vous, Colette. Aujourd'hui, nous allons mettre les maillots de bain. Mais avant d'accueillir en studio mon invité du jour, deux chroniqueurs autour de la table pour m'accompagner. Bonjour Morgane Nectou, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ?
Bonjour Yves, bonjour les auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler du mythe de la piscine dans l'art.
Ouf, le mythe dans la piscine dans l'art, ça risque d'être très sympathique. Et également avec nous, le chef Hervé Chéneau. Bonjour Hervé, de quoi allez-vous nous parler ?
Eh bien bonjour Yves, bonjour à tous et bonjour à nos chers auditeurs. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau dans les aliments et la nourriture.
Ah, quelque chose de très important, effectivement. Alors en tout cas, Hervé, on retrouve aussi votre chronique en deuxième partie d'émission et Morgane en première partie. Chers auditeurs et auditrices, mettez vos bonnets de bain, c'est parti pour le grand plongeon dans l'émission du jour.
Les Voix de l'Écho, une émission présentée par Yves Maguin.
La France et ses départements d'outre-mer contre 4135 piscines réparties dans 3030 communes. Les piscines extérieures d'une superficie supérieure à 10 mètres carrés sont soumises bien sûr à la taxe d'aménagement qui est réservée donc aux collectivités territoriales par la suite. Une taxe piscine dont le coût a bondi de 25% le 1er janvier 2023.
Avant de toucher le fond, je descends à reculons.
Et pourtant, la France compte plus de 2,5 millions de piscines privées, dont 1,2 million de piscines hors sol. L'Hexagone est le premier marché européen en termes de piscines installées chez les particuliers. Je reçois aujourd'hui dans le studio de Radio G le créateur d'Air Piscine, Bernard Rambeau-Pasquier. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour Yves, bonjour Morgane, bonjour Hervé, bonjour à tous les auditeurs. Alors c'est la Saint-Colette, mais j'en profite tout de suite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma fille Lou, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui, pardon.
Eh ben, félicitations, joyeux anniversaire donc à votre fille, et encore une fois, bonne fête à toutes les Colettes. Alors Bernard, chez Air Piscine, vous vous qualifiez comme un créateur de bonheur aquatique. C'est comme si vous vendiez un peu du rêve à vos clients. Comment décririez-vous votre approche de conception ?
Du rêve, oui. En fait, statistiquement, 40% des Français ont envie d'une piscine. Donc, je pense que quand j'ai créé mon entreprise, il n'y a pas que moi que ça faisait rêver. C'était une période où professionnellement, j'avais à peu près touché le fond de la piscine. Enfin, ce n'était pas une piscine, mais c'était une période très compliquée. Et pendant le confinement, j'ai pris une pelle, une pioche, j'ai creusé un trou dans le jardin, j'ai fait une piscine et j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai décidé de faire une piscine et puis d'en faire une entreprise. Donc, c'est parti de ça, d'un rêve, mon premier rêve. Mmh. Et c'est quand même une promesse de bonheur, une piscine. C'est un investissement quand même conséquent. Donc, si on le fait, il faut que ça se passe bien. Donc, moi, c'est vraiment ce que j'aime dans mon métier, c'est la relation au client. Au-delà du produit que j'en livre à la fin du chantier, j'adore quand ils sont contents. Là, je suis payé.
Et alors, justement, quel type de piscine vous réalisez, Bernard ?
Alors, je ne fais que de la piscine traditionnelle, enterrée. Je ne fais pas de coque. Je n'ai pas d'affinité avec le produit. Je ne dis pas que c'est mal. Hein. Ça ne doit pas être un produit de luxe, forcément, la piscine. Mais moi, j'ai une approche sur la piscine en béton, enterré et éco-responsable.
Alors, on en parlera tout à l'heure de l'éco-responsabilité. Alors justement, quand vous construisez une piscine, afin de garantir une expérience, on va dire, heureuse pour les propriétaires, c'est quoi les principaux éléments que vous regardez quand vous débutez un chantier ?
Ben, évidemment, le terrain, mais avant tout, c'est une discussion avec les clients. De quoi ils ont envie, comment ils ont envie de vivre leur piscine, à quel endroit on va le mettre dans le terrain. Tout ça, c'est un peu comme quand on aménage une maison, en fait. Comment on va circuler, où va être la cuisine, où vont être les couloirs, les circulations, etc. Et ben, on fait exactement le même travail dans le jardin. Il y aura combien de personnes, c'est exposé comment ? Est-ce que le client veut nager ? Est-ce qu'il veut plonger ? Est-ce qu'il veut jouer ? C'est toutes ces questions qu'on se pose.
D'accord. Et alors, pourquoi ce nom Air Piscine, justement, Bernard Rambeau-Pasquier ?
Ça, c'est une réflexion marketing très, très poussée. Quand j'ai créé la boîte, non, pas du tout, j'avais envie de changer d'air. C'est pour ça que ça s'appelle Air Piscine.
Ah oui.
Et je voulais absolument que le nom porte le nom Piscine. Comme ça, quand je dis que je suis le fondateur d'Air Piscine, les gens savent à peu près tout de suite ce que je fais comme métier.
Ah oui.
Et puis, au milieu de Air Piscine, il y a un R et un P comme Rambeau-Pasquier. Voilà. Comme ça, vous savez tout.
Ah, c'est pour ça que donc, le R est en majuscule et le P est en majuscule.
Exactement. Ah, bonne vision, Yves.
Très, très bien. Est-ce qu'il existe des tendances en matière de design dans l'univers de la piscine ?
Oui, la mode est actuellement aux formes assez angulaires. En fait, ça va bien parce que c'est simple. Alors, dans les années 60-70, on aimait bien les formes aléatoires, les haricots, les fosses à plongeon à 2,50 m, des trucs impossibles à entretenir maintenant. Horriblement cher en entretien et en eau. Maintenant, on fait simple.
D'accord. Alors, justement, est-ce que vous avez des exemples, un petit peu, des anecdotes à nous partager sur la conception d'une piscine qui aurait, par exemple, enchanté vraiment vos clients ?
J'ai le cas d'une piscine d'hypercentre-ville, pas très très loin d'ici, Place Ney, avec un accès extrêmement compliqué. Il a fallu traverser la maison, qui était très très bien décorée, qui avait été entièrement faite, ça m'a un peu stressé quand même. Il a fallu passer tous les matériaux à la main, retirer un vieux spa dont le client voulait se séparer, retirer à peu près 10 tonnes de gravats, de béton, cassé au marteau piqueur, traverser à la main. Voilà, ça c'est ce genre de choses. En fait, moi, plus c'est compliqué, plus c'est marrant. Je n'aime pas trop l'usine du bâtiment, mais quand un client vient me demander un truc compliqué, là j'ai l'impression d'exploiter mon savoir-faire, et là ça me fait plaisir, il y a de l'enjeu.
Alors j'imagine que vous travaillez avec plusieurs corps de métier ou ils sont intégrés chez Air Piscine ?
Le marché de la piscine, c'est un peu comme la cuisine. Les architectes, ils touchent pas trop, soit par méconnaissance, soit parce que le client veut s'en occuper lui-même. Et ça veut dire qu'en fait, les clients, ils ont un besoin sur effectivement plein de l'eau. Terrassement, grosses œuvres, électricité, étanchéité, paysage, décoration, éclairage. Et donc, il faut savoir à peu près tout faire. La piscine, finalement, c'est un métier assez complexe. Il faut avoir pas mal de compétences. Alors, bon, après 25 ans dans le bâtiment, je pense les avoir à peu près acquis. On en a toujours à apprendre. C'est aussi intéressant, ça. Mais ça fait toucher beaucoup de choses. Et ça aussi, et j'aime beaucoup ce métier-là pour ça.
D'accord. Donc, c'est vous qui allez avec votre pelle faire des trous ou pas du tout ?
Ouais, je l'ai fait une fois chez moi. Je me suis dit, je ne recommencerai pas parce que c'est fatigant quand même. Non, il faut utiliser des moyens qui sont utiles quand même. Le terrassement, par exemple, je le fais faire.
Ouais.
Je l'appelle un terrassier. Le mode constructif que j'utilise, qui sont des banches perdues en polypropylène recyclé. C'est un mot qui est peut-être un gros mot, mais ce qu'il faut retenir, c'est que j'utilise des matériaux recyclés pour couler du béton. Donc, j'ai pas besoin de matériaux neufs. C'est pas du parpaing. J'utilise 30 à 40% de béton en moins. Ça, c'est des méthodes constructives qui ont été réfléchies et poussées au maximum pour qu'on puisse dire oui, vraiment, c'est possible. On peut construire une piscine complètement éco-responsable.
Super, on va en reparler tout à l'heure. Alors avant de laisser la parole à Morgan Nectou pour sa chronique, nous allons jouer.
Here we go !
Bernard, j'ai pris l'habitude de faire des mini-jeux pendant l'émission, des mini-jeux de questions-réponses. On va commencer par la carte d'identité de votre entreprise. Vous pouvez bien sûr dire joker ou je passe si vous ne voulez pas répondre ou si vous ne connaissez pas la réponse, ça peut arriver. Est-ce que vous êtes prêt ?
C'est parti.
Alors, quel est donc le nom de votre entreprise ?
Alors, le nom commercial, c'est Air Piscine, mais son nom juridique, c'est la SAS Rambeau-Pasquier.
Son année donc de création ?
2018.
Combien êtes-vous ?
Nous sommes deux.
D'accord.
Et ça peut monter jusqu'à 3 ou 5 en fonction de la quantité de chantier.
Ok. Où est-ce que vous êtes situé?
Alors, le siège est situé à Brissac-Quincé.
Ok. Quelle est l'adresse de votre site web?
Eh bien, c'est pas compliqué. C'est airpiscine.fr. Donc, airpiscine, A-I-R, piscine au singulier.fr.
Parfait. Et quel est votre chiffre d'affaires annuel?
Il oscille. Alors, l'année dernière, on était à peu près à 250 et cette année, la prévision, elle est à 350-400.
Ok, super. Merci beaucoup, Bernard, pour vos réponses.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors justement, existe-t-il un mythe dans la piscine, dans les domaines des arts? C'est le moment d'écouter la chronique de Morgane Nectou.
Soyons les artistes de notre vie, une chronique de Morgane Nectou.
Bonjour Yves, bonjour chers auditeurs. Et oui, je profite de la présence de notre invité aujourd'hui pour vous parler de cet élément anodin qui pousse dans nos jardins et qui a une place toute particulière dans l'art, la piscine. Mais commençons tout d'abord par évoquer la symbolique de l'eau qui, depuis Narcisse, est un élément à part entière de notre créativité. Narcisse qui, je vous le rappelle, submergé par son égo, je vous invite à écouter ma chronique de notre dernière émission par l'occasion, finit amoureux de son reflet, ce qui causa sa perte. Mais revenons, chers auditeurs, à notre rectangle rempli de liquide qui inspire tant nos artistes, que ce soit de la nouvelle vague ou des vagues plus actuelles, qui parfois, comme Adjani, touchent le fond. « Y a pas qu'au fond de la piscine que mes yeux sont bleus marines, tu les avais repérés sans qu'il y ait un regard. » Et t'avais appliqué, maintenant je paie l'effet retard. » Déjà, à l'époque, Gainsbourg semblait nous prévenir des délais de chantier qui ne sont pas toujours livrés à temps. Mais excusez-moi, je m'égare. Revenons donc à cet élément hors norme qui reste pour le 7e art symbole de luxe et d'érotisme, comme le titre le journal Le Monde en octobre 2018. La piscine au cinéma. Un rectangle qui échappe aux lois du réel. Article qui évoque notamment la piscine comme, je cite, « puissance cinégénique ». Je reprendrai par exemple la fameuse scène du film « Gatsby le Magnifique » où Leonardo DiCaprio donne une fête luxuriante où l'argent, le champagne et l'eau coulent à flots au bord de la piscine. La piscine. Le célèbre film de Jacques Deray de 1969. Réunissant le duo si charismatique Romy Schneider et Alain Delon. Ou pour anecdote, Yves, le réalisateur a cru au moment du tournage de La Noyade que l'acteur Maurice René se noyait véritablement. Alors, réalité ou fiction? Toujours dans cette belle mise en abysse, en abîme des artistes, je pourrais aussi vous citer ce magnifique thriller de François Ozon, Swimming Pool, où l'héroïne, écrivaine, jouée par Charlotte Rampling, se repose et cherche l'inspiration au bord de la piscine avant de trouver sa nymphe, Ludivine Sagnier. Objet convoité donc des réalisateurs, la piscine est une véritable star à elle seule. Sa filmographie serait bien trop longue pour cette chronique. Je vous souhaite donc, chers auditeurs, de ne pas finir dans la vôtre, votre piscine bien sûr, comme Jennifer Lawrence dans Passenger, emprisonnée entre eau et gravité, mais plutôt de vous imaginer en James Bond dans Skyfall et de faire le plongeon pour finir dans le grand bain. Alors, welcome Bernard.
Waouh.
Est-ce que vous avez une question pour notre invité, Morgane?
Alors peut-être une question, est-ce que vous avez un film qui reste pour vous en mémoire avec justement une piscine?
Écoutez, même pas. Si je peux rajouter une précision, dans air piscine, il y a le mot air parce qu'en fait, mon élément à moi, c'est l'air, c'est pas l'eau. Désolé de vous décevoir.
Merci, Bernard.
Si vous voulez un film, je vous citerai Arizona Dream où on voit des poissons voler dans le désert. Voilà, si ça peut faire un mix entre les deux, c'est un peu bizarre.
Ouais, c'est bien. Ou alors,
merci.
On a les derniers films avec les crevettes pailletées, par exemple, aussi. Il y a quelques années qui ils sont sortis. Merci beaucoup, Morgane, pour votre chronique.
Les voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors, Bernard Rambeau-Pastier, je voulais qu'on parle aussi un peu de technique et d'innovation. Nous vivons dans un monde d'objets connectés. Est-ce que vous intégrez justement ces technologies-là dans les conceptions de vos piscines ?
Oui, absolument. Pour la gestion de la piscine, maintenant on peut gérer depuis un smartphone sa piscine, à savoir le traitement, la température, la filtration, tous ces éléments-là, on peut les gérer à distance, par souci d'économie aussi au fait.
D'accord. Et alors ça veut dire que vous mettez donc des capteurs dans l'eau.
En fait, la machinerie qui traite la piscine, enfin qui traite la qualité de l'eau de la piscine et la filtration est équipée d'appareils qui mesurent en temps réel la température, le niveau de chloration, si on a besoin, ou de salinisation, etc. Tout ça, c'est traité en automatique. On peut savoir si le niveau de l'eau de sa piscine baisse, on peut savoir la température, on peut savoir plein de données chimiques, l'alcalinité, le chlore, etc. etc.
Ah oui, c'est très, très précis.
Oui, oui, c'est très, très poussé. Alors, ça, c'était des systèmes qu'on trouvait déjà sur les piscines publiques, dont vous avez cité le nombre. Alors, je ne le connais pas du tout. Je ne l'ai pas retenu, désolé.
4000 et quelques.
C'est ça, mais les 2 millions et quelques de piscines, alors il y en a moins que ça, hein, parce que les piscines creusées, effectivement, il y en a très très peu en France.
Ouais.
Mais là maintenant, ce marché reçoit des solutions de domotique qui sont intéressantes. Je dirais même basiques, en fait, c'est nécessaire. Si on veut vraiment parler d'éco-responsabilité, là, il faut en avoir pour faire des économies.
Ouais, et au niveau de l'esthétisme, ce sont des capteurs qui sont un peu cachés, j'imagine.
On arrive. Oui, à bah, ça, chose. On ne le met pas en avant. On essaie de trouver un coin. Enfin, ça, ce n'est pas le beau. Hein. Moi, ce n'est pas photo comme ça, vous verrez sur mes réseaux sociaux. Mais c'est le mal nécessaire. Enfin, ce n'est pas un mal nécessaire. C'est nécessaire pour que la piscine fonctionne bien. Mais ça, on le met dans une machinerie, dans un garage, dans un coffre enterré. À proximité le plus possible.
Oui, à proximité, effectivement. On parle aussi beaucoup d'intelligence artificielle en ce moment. Est-ce que c'est une tendance émergente que vous appliquez aux piscines, que vous mettez en place, ou pas encore ?
Non, moi j'aime bien laisser la place à l'humain dans la création du beau au côté de la piscine. Par contre, toutes les publications d'Air Piscine sont retravaillées avec l'IA, ça c'est clair.
Okay.
On ne va pas plus loin. C'est probablement une révolution arrive sur cette question de l'IA, que je fais partie de beaucoup de gens, je ne maîtrise pas, je le vois arriver. Mais enfin, comme d'habitude, on va s'adapter.
Oui, exactement. Alors, on va parler maintenant donc, de durabilité et d'environnement, hein, qui est un de vos de chefs de bataille, Bernard Rambeau-Pastier, justement. Vous avez parlé tout à l'heure des matériaux. Quels matériaux vous privilégiez pour minimiser l'impact environnemental, justement, et la durabilité des piscines ?
Eh bien, du vulgaire plastique recyclé, je peux le dire comme ça. Voilà, on prend des vieilles bouteilles recyclées, on les transforme en murs, en plastique, dans lesquels on vient couler du béton. C'est la base, mais c'est une démarche globale. En fait, Air Piscine, c'est 100% de fournisseurs français, voire locaux. Le fournisseur des murs que j'utilise pour faire les piscines s'appelle Unibeo, U-N-I-B-O. Il est situé à Troyes, en France. Et c'est un procédé que je trouve juste génial. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on utiliserait des matériaux neufs alors qu'on peut utiliser des matériaux recyclés ? Pourquoi on utiliserait 40% de béton pendant qu'on peut faire 40% de moins ? Et puis ça va aussi sur la taille de la piscine. Pourquoi est-ce qu'on ferait plus grand quand on peut se contenter de plus petit ? Est-ce qu'on a vraiment besoin à chaque fois d'une piscine de 5 par 10 ou 4 par 8 ? Est-ce qu'on ne s'amuserait pas autant dans une piscine de 3 par 7 par exemple ? Ça, moi, j'ose le proposer aux clients. Puis, en même temps, c'est aussi moins cher à l'installation. C'est beaucoup moins d'eau. Quand on rénove une piscine, pourquoi est-ce qu'on ne réduirait pas la profondeur du fond ? Les murs à l'intérieur. Il y a plein de solutions.
Et justement, chez vous, c'est plutôt des piscines où on prend du bon temps juste pour faire trempette ou il y a quand même un peu de nage ?
Mais c'est ce que je dis aux clients. Si vraiment ils veulent se baigner, bah, y a des piscines publiques qui sont géniales pour ça. Ou alors, si on n'a pas envie de se retrouver coincé dans un bassin qui fait 25 ou 50 mètres, c'est déjà pas mal, hein. On va à la mer. Mais je pense que la piscine, c'est vraiment du loisir. Donc, des gens qui me demandent, par exemple, une option avec une nage à contre-courant, ils ne sont pas si nombreux que ça, mais c'est de la piscine loisir, c'est de la piscine apéro, c'est du temps qu'on passe entre amis. Enfin, si vous pensez fermer les yeux et que vous dites piscine, réfléchissez vous-même à quoi vous pensez, à du bon temps, à des moments entre amis, en famille. C'est ça, c'est du loisir, c'est pas du sport. La piscine que je fais, moi, c'est de la piscine loisir.
Et alors justement, vos clients viennent vous voir pour votre couleur éco-responsable Ou est-ce que vous savez ça à peu près ? Vous avez des statistiques là-dessus ?
Non, pas trop. Je pense qu'ils viennent nous voir parce qu'ils savent qu'il y a à la base une vraie compétence chez Air Piscine, sur de la piscine technique plutôt haut de gamme. Et la démarche éco-responsable, ils la découvrent en fait lorsque je viens leur présenter notre mode constructif. Mmh. Et c'est presque un peu la cerise sur le gâteau. Ils disent « Ah ben oui, c'est vrai en fait. Si en plus, on peut avoir ça comme ça, mais c'est génial. » Donc ça finira peut-être par savoir. C'est peut-être aussi l'objectif de ma démarche avec vous, c'est de dire « Oui, on peut et voire même on devrait faire de la piscine éco-responsable.
Voilà. » Oui. Surtout avec ce qu'on a pu connaître avec les sécheresses, le fait de dernièrement de pas remplir ses piscines, ce genre de choses, les taxes qui augmentent.
Oui. Tout ça. La piscine peut vite devenir un coupable idéal, clairement, oui. Parce que en fait on fantasme beaucoup et beaucoup de gens voudraient une piscine, peu finalement en ont parce que ça coûte très cher. Mais les piscines, la consommation d'eau annuelle des piscines en France, c'est 1,5%. Les fuites dans le réseau, c'est 25-30%. Alors, ça ne veut pas dire que les piscines n'ont pas d'efforts à faire sur leur consommation d'eau. On peut en faire. Hein. Mais si vraiment on veut faire des économies d'eau en France, eh ben, on sort des pelleteuses, on refait les réseaux et puis on économisera beaucoup d'eau. Mais je défends quand même le fait que les piscinistes doivent avoir des solutions qui permettent d'économiser de l'eau.
Ah oui, justement, vous éduquez aussi un peu vos clients un peu à ces choix écologiques possibles.
Et en fait, le travail, il n'est pas très dur à faire. Il faut juste avoir le discours, mais je me rends compte que les gens sont très à l'écoute de ça. Parce que parfois, même, ils culpabilisent à l'idée de vouloir se faire faire une piscine. Alors, une piscine hors sol, vous achetez une piscine, vous la videz tous les ans. Elle fait 10 mètres cubes, vous avez perdu 10 mètres cubes. Vous faites une piscine de 20 mètres cubes creusés. Vous renouvelez 1, 2 mètres cubes par an. Ça consomme beaucoup moins d'eau. Vous mettez une couverture pour éviter l'évaporation. Vous avez une consommation d'eau réduite. Vous mettez un système sans produits chimiques ajoutés. Vous utilisez très peu de produits chimiques. Il y a plein de solutions comme ça. L'eau qu'on utilise pour laver, alors est-ce qu'on met un filtre à cartouche ou un filtre à sable ? Je ne sais pas trop rentrer dans la technique, mais est-ce qu'on utilise moins d'eau pour la laver ou un peu plus d'eau ? Il y a plein de questions à se poser. Et pourquoi on ne réutiliserait pas l'eau de pluie ? Après un système de nettoyage et de filtration. Alors, le dites pas à l'Agence régionale de santé publique qui ne veut pas, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je défends le fait qu'on peut réutiliser l'eau de pluie pour remplir les piscines. Comment ils font sur les péniches ?
Ouais.
Comment ils font sur les bateaux ? Ils ont un tuyau d'eau qui les rapproche au port pour avoir de l'eau ? Non, ils recyclent. On peut recycler, c'est possible.
Effectivement, ouais. C'est des choses vraiment très, très intéressantes.
Bah, c'est surtout du bon sens, je dirais, en fait. Ouais. Franchement.
Et alors, est-ce que vous savez pourquoi les personnes, justement, préfèrent plutôt une piscine hors sol qu'une piscine creusée ?
Bah, c'est simple, c'est le coût. Vous allez dans n'importe quel magasin de grande distribution, vous achetez une piscine en plastique qui va vous coûter 300 euros. Après, vous allez vous acheter une piscine en bois hors sol, 1500, 2000, 3000 euros. Puis si vous voulez une piscine creusée, une 4x8 avec des installations standards, on est aux alentours de 30 000 euros. Puis après, vous n'avez plus aucune limite.
Eh oui.
Chiffrer des projets à 100, 200 000 euros. Il y a des gens qui, voilà, quand vous rajoutez du paysage, en fait, il en faut partout. Moi, je défends l'idée que ça ne doit pas être un produit de luxe, la piscine. Ça peut l'être, évidemment. C'est comme les voitures.
Hein. Tout à fait.
Des petites voitures et des grosses voitures.
Exactement. Alors en tout cas, piquer une tête fait souvent du bien au corps et à l'esprit. C'est le moment de faire notre respiration musicale dans l'émission. Nous allons écouter Un poison violent de Serge Gainsbourg. On reparle de ce choix musical avec mon invité Bernard Rambeau-Pastier juste après. Bonne écoute sur Radio G.
Qu'est-ce autre chose que la vie des sens, qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit, de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Je m'en fous, ta gueule, laisse-moi finir. L'âme flottant toujours incertaine entre l'ardeur qui se renouvelle, l'ardeur qui se renouvelle et l'ardeur qui se ralentit, l'ardeur qui se renouvelle et l'ardeur qui se ralentit. Oh, je m'en fous! Mais dans ce mouvement perpétuel, de l'appétit au dégoût, de l'appétit au dégoût, et du dégoût à l'appétit. On ne laisse pas de se divertir par l'image d'une liberté errante. Tu sais de qui c'est,
non?
Bossuet.
Bravo, tu as l'horizon funèbre?
Ah non, parce que moi je suis assez cynique pour en faire ma ligne de conduite.
Oh, t'es dégueulasse! Dégueulasse, mon vieux!
Ouais, ouais, un peu amnésique sur les bords, hein. Voilà où ça mène. Un poison violent, c'est ça l'amour. Un truc à pas dépasser la dose, c'est comme en bagnole. Au compteur 180, à la borne 190. Effusion de sang. Voilà, je te donne un conseil. Tu tiens ta peau, laisse tomber.
Je cours après une ombre, tu vois. Et c'est même pas la mienne. Encore elle serait sur les colonnes Maurice. Je pourrais l'attendre à l'entrée des artistes. Mais elle est insaisissable. Où veux-tu que je la trouve?
Oh, petit Armstrong Jones, il fallait pas faire de la photographie.
Oh, toi t'es écœurant. On peut pas discuter avec toi. Tu prends toi la blague.
Ah, oh, erreur. Erreur, justement. Un de ces quatre, tu verras. Tu me rendras raison. Écoute. Quand tu en auras marre, j'ai une petite pour toi. Complètement demeurée, mais tellement esthétique.
Oh, ne fatigue pas, va. Allez, salut.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Vous êtes toujours branché sur Radio G à l'écoute de l'émission Les Voix de l'écho et je suis en compagnie donc de mon invité Bernard Beaupassier d'Air Piscine et aussi en compagnie de mes chroniqueurs Morgane Nectou et Hervé Chéneau que l'on va écouter tout à l'heure. Nous venons d'écouter Un poison violent de Serge Gainsbourg. Pourquoi avoir choisi ce titre musical, Bernard?
Pour sa première minute. Alors, je ne veux pas débattre sur la question de l'amour ou pas, mais sur la vie d'essence. Qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Je trouve qu'on est tous comme ça, on vit des moments où on a plus ou moins envie, et parfois on a envie de changer dans la vie. Mmh. Et mon élément, c'est l'air. Et moi, j'aime bien être libre comme l'air. Donc, s'il y a un métier que j'aime plus ou si je me sens pas à l'aise, j'ai envie de changer. Et c'est un peu ça aussi le départ de l'histoire d'Air Piscine, j'ai envie de changer d'air. Donc, cette chanson a beaucoup de sens pour moi parce que je fais les choses par envie. Et il n'y a que comme ça que je pense que je les fais bien ou mieux. Donc, comme j'aime bien ce que je fais, je pense que mes clients le ressentent. Et donc, voilà, la vie d'essence, c'est un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Puis, Gainsbourg n'est pas pour me déplaire. Hein. Un de mes fournisseurs officiels de culture, un peu insolent sur les bords. Ça, j'aime beaucoup aussi. Ça me va bien.
Ouais. Alors justement, Bernard Rambeau-Pastier, on a parlé un peu des prix tout à l'heure, avant la pause musicale. Quels conseils donneriez-vous à nos auditeurs et auditrices qui envisagent de faire construire une piscine pour la première fois?
D'aller se baigner dans la piscine de leurs amis, d'aller voir différentes piscines, de prendre le temps de regarder, de mettre quatre ballons de tennis dans leur jardin pour définir... où ils veulent la mettre, et puis de comparer. Alors, pas 10 entreprises, hein, mais faites venir 1, 2, 3 entreprises. Prenez le temps de réfléchir. En fait, c'est un projet qui se construit, je trouve, sur un temps relativement long. Il faut se laisser 1 an, 2 ans, le temps de réflexion. Pas se précipiter, parce que quand on dépense autant d'argent, il faut être sûr que ça va être sympa quand même, quoi.
Oui.
Et puis, se dire que... Parfois, je dis à mes clients que je choisis mes clients. C'est un peu présomptueux, mais c'est une manière de dire que... Et c'est réciproque, hein, puisque eux vont choisir leur pisciniste. Mais qu'est-ce qui va faire qu'on va matcher ensemble? Moi, si je ne m'entends pas que les gens qui sont en face et qui ne s'entendent pas avec moi, mais il ne faut surtout pas qu'on bosse ensemble. Donc, est-ce que vous avez un bon ressenti avec la personne que vous avez rencontrée? Est-ce qu'il vous a inspiré? Est-ce qu'il vous a rassuré? Puis prenez des renseignements aussi sur les entreprises. Tout à l'heure, vous disiez que les entreprises ne tenaient pas forcément leur délai. Qu'est-ce qu'on dit de cette entreprise? Aller voir les avis, demander à des gens, demander des références, aller voir des chantiers construits par ce business. Prenez le temps de... Voilà. Et une fois que vous avez fait ça, franchement, ça va bien se passer après.
Vous êtes à l'écoute de vos clients. Et ça, c'est top. Et vos clients sont même à votre écoute. Donc, tout va bien dans les deux sens. Tout à l'heure, on a parlé un petit peu des entretiens de piscine. C'est quoi les erreurs courantes que les propriétaires de piscine peuvent faire quand ils ont une piscine et comment ils peuvent éviter en fait, ces erreurs, Bernard ?
Ça dépend en fait, du traitement de la piscine. Avec quoi est traité ? Est-ce que c'est au chlore ? Est-ce que c'est au sel ? Est-ce qu'au bord, aux UV ? Il y a plein de solutions. Donc, un petit peu de chimie, c'est de l'observation. On vit dans sa piscine, on regarde comment elle réagit, c'est des appareils de mesure. Dans un magasin de bricolage, vous prenez des bandelettes, mesurez votre taux de chlore, la température, l'alcalinité, etc. Et puis, pas trop de produits. C'est écrit sur la notice. On met ce qu'il faut, pas plus, pas moins.
Oui, c'est ce qui permet donc de maximiser finalement la longévité de sa piscine.
Oui, ou alors, on a une installation avec une gestion automatique de ça. Et du coup, on a juste besoin d'allumer sur on en début de saison, off en fin de saison et au milieu. Mais vraiment, il n'y a plus rien à faire. Et c'est un peu ça que je défends, en fait.
Ouais, c'est là où justement les nouvelles technologies arrivent, dont on parlait tout à l'heure.
Et ça fonctionne très très bien maintenant.
Et est-ce que vous assurez un suivi justement avec vos clients sur la construction pour la garantie d'une satisfaction un peu à long terme, on va dire ?
Bah, je pense qu'il faut être présent, évidemment, au début, mais c'est surtout après qu'il faut être bon. Parce que commercialement, on peut faire des promesses, mais si... Une fois qu'on a commencé les travaux, là, il faut les tenir. Et une fois qu'on a livré, il faut encore être présent. Donc, chez Piscine, eh ben, en saison, je me balade avec la caisse à outils dans le coffre tout l'été. Et puis, quand ça sonne, je réponds automatiquement. Alors, on essaie de dépanner par téléphone s'il y a besoin. Et si je ne peux pas, ben, je passe le soir ou le lendemain. Mais c'est vraiment là qu'on voit qu'une boîte est vraiment bien. Et puis, si on a fait une bêtise, ben, on la corrige tout de suite. Enfin, ça peut arriver à tout le monde. Il ne faut pas avoir peur de dire que de temps en temps, on a raté un truc, il y a un tuyau qui fuit. Ben, on le répare, mais... Faut assumer, c'est vraiment une relation au long cours.
Ok. Alors avant d'écouter la chronique du chef Hervé Chéneau, comme tout à l'heure, nous allons jouer.
Here we go !
Pour ce deuxième jeu, Bernard, nous allons faire votre portrait chinois. Est-ce que vous êtes prêt ?
Oui, si les questions sont pour un chinois. Cette réflexion est déjà faite par un de vos invités.
Quel est votre plat cuisiné préféré ?
Les lasagnes faites par mon fils.
Quelle est votre série préférée ?
Sous détective.
Ok.
Avec un meilleur accent.
Quelle est votre couleur préférée ?
Ah, clairement le jaune.
Votre sport préféré ?
L'alpinisme.
Votre ville préférée ?
Angers, évidemment. Enfin, est-ce Brissac c'est... aussi.
Là où vous vivez. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo ?
Non, absolument pas.
Ok. Et quel est votre dernier lieu de vacances ?
Dans le Luberon, à Beaugneux, chez Ginette, que je salue. Qu'est-ce qu'on est bien là-bas. Ça fait à peu près comme ça.
Ah ouais, c'est sympa. Pourquoi vous levez-vous le matin ?
Pour me coucher moins bête le soir.
Ok, merci Bernard pour vos réponses.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Alors un légume sans son eau, hein, c'est comme une piscine vide. Et quand le légume est égorgé d'eau, et ben, c'est comme si une piscine un peu débordait. En tout cas, dans ces situations difficiles de trouver plaisir en mangeant ou en nageant, alors plutôt que de faire plouf et splatch et que le lancement de cette chronique tombe à l'eau, c'est le moment d'écouter sans plus tarder la chronique du chef Hervé Chéneau.
De la fourche à la fourchette, une chronique du chef Hervé Chéneau.
Alors mon cher Yves, l'un des trucs les plus importants en cuisine, c'est l'eau contenue dans les aliments. Pourquoi ? Simplement parce que les aliments contiennent en moyenne 80% d'eau. Plus précisément, la viande de 60 à 80%, les poissons 80%, les légumes de 80 à 95%, les fruits de 80 à 95%. On a l'impression qu'on mange que de l'eau. Quelques exemples. Quand vous faites griller une viande, il y a une petite fumée blanche qui monte. Cette fumée blanche, c'est de la vapeur d'eau. L'eau contenue dans la viande s'évapore en chauffant. Quand vous faites cuire un poulet de 1,8 kg, vous faites aussi cuire les 1 kg d'eau qu'il contient. Pour la cuisson de 1 kg de tomates, c'est aussi 900 g d'eau que vous préparez. Un poisson devient sec parce que l'eau contenue dans ses chairs s'est évaporée. Je vois déjà Morgane sourire. La peau du poulet rôti devient, elle, croustillante parce que l'eau qu'elle contient s'est évaporée. De la même façon, les frites deviennent dorées et croustillantes parce que lorsqu'on les fait frire, l'eau contenue à la surface de la frite s'est évaporée. Cette surface devient alors sèche et croustillante. Je reviens sur mon poulet, ne mettez pas d'eau dans la cuisson du poulet rôti, sinon il n'y aura pas de couleur. Une épaule d'agneau confite, cuite pendant 4 heures à 120-140 degrés, est tendre et juteuse parce que la température intérieure de la viande ne dépasse pas 60 à 70 degrés et que l'eau qu'elle contient ne s'évapore pratiquement pas, donc elle ne sèche pas. On a tous lavé du linge un jour et il a bien fallu le faire sécher. Quand vous mettez votre linge dans un sèche-linge, il chauffe, l'eau s'évapore et le linge sèche, et non pas le sèche-linge, enfin, peu importe. En cuisine, c'est exactement la même chose. Quand vous faites cuire les aliments, vous les chauffez, l'eau contenue dans l'aliment s'évapore. De la température et du temps de cuisson va dépendre l'évaporation de l'eau. Dans un four, à chaleur tournante, le ventilateur brasse l'air chaud à l'intérieur du four et crée du vent. La nourriture s'assèche plus vite, donc il vaut mieux éviter de l'utiliser. Plus vous chauffez fort, plus l'eau contenue dans les aliments s'évapore et plus votre nourriture s'assèche. Ça y est, vous comprenez l'importance de l'eau contenue dans les aliments ? Pour info, l'eau bout à 100 degrés au niveau de la mer, à 93 degrés à 2000 mètres d'altitude, à 85 degrés au sommet du Mont Blanc et à 38 degrés à 20 000 mètres d'altitude. Voilà, voilà, mon cher Bernard, faites-vous attention aux températures de votre four pour ne pas dessécher vos aliments.
Absolument pas, Hervé. Par contre, j'ai déjà fait bouillir de l'eau à 6000 mètres.
Ah.
Et le riz est vraiment pas bon, il est pâteux. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui. Et c'est toute une histoire de température d'eau, effectivement, oui. Et de temps de cuisson.
Oui, c'est important, effectivement, l'eau dans nos aliments. Alors moi, j'adore le four à chaleur tournante, hein, donc merci, j'ai encore appris des choses.
Il faudra arrêter, mon cher Yves.
J'arrête. Hein.
Ça va tout déchirer.
Déjà, l'effet Maillard, grâce à vous, je ne récure plus ma casserole.
Voilà, tout à fait.
Ou quand j'essaie de le faire, en tout cas, je me dis,
non,
je me souviens ce qu'a dit Hervé.
On enlève la matière grasse et on met de l'eau.
C'est ça. En tout cas, merci encore pour cette chronique.
Les Voix de l'écho, une émission présentée par Yves Maguin.
Bernard Rambeau-Pasquier, quelle source d'inspiration alimente votre créativité lorsque vous faites justement la conception de piscine?
Waouh. Les conseils d'écho de ma femme. Je vais redire ça.
Ouais, mais bien sûr.
Parce que je pense que je vis avec quelqu'un qui a un sens esthétique qui est vraiment très très bon. Et je pense que ça vient de ça, ouais.
Ok, et est-ce que justement il y a des tendances architecturales des fois qui peuvent être influentes?
Bon, on a tous des tendances, mais moi j'aime bien revenir aux essentiels. Donc des matériaux nobles, acier, verre, bois, pierre. Et ça, je trouve que ce mélange-là, vous pouvez le mettre ensemble, ça fait à peu près toujours bien.
Surtout en plus si c'est français ou local, c'est encore mieux.
Bah, et en plus, on a plein de solutions en France. Il suffit juste de les chercher, de vouloir les trouver, mais il y en a plein à l'infini.
Est-ce que justement, vous avez une expérience où la créativité que vous avez dû avoir était cruciale sur un défi que vous a donné un client?
Oui, c'était sur une vieille piscine. D'une forme arrondie, d'un volume de 70 mètres cubes, elle faisait 10 par 5. Tout le monde se grattait la tête pour trouver une solution pour rénover cette piscine, et puis j'ai fini par proposer de poser des murs dans la piscine. Donc on a réduit le volume, on a gardé le fond, on a réduit le volume de 40%, on a refait l'esthétique autour, et le client est super content du résultat.
Okay.
Et je le trouve même plus beau que ce que j'avais imaginé au départ, donc je pense que c'est pas mal réussi.
Ouais, et en plus, il a fait des économies d'eau. Du coup,
oui, tout aussi. À fait.
Donc ça, c'est top. Vous parliez justement tout à l'heure de le côté local de vos piscines. Est-ce que justement, c'est pas un argument qui est aussi hyper intéressant pour vos clients aujourd'hui?
Si tout le monde parle de circuit court, on peut en parler en agriculture, mais pourquoi pas en artisanat, pourquoi pas dans le commerce, plutôt que de s'acheter un truc qui vient de l'autre bout de la terre via un site marchand que je ne veux pas citer, peut-être qu'on peut le trouver localement. C'est pareil pour les piscines, il y a plein de produits, il y a des fabricants autour de Cholet. Là, je vais poser une piscine sur le toit d'un immeuble au sixième étage d'un immeuble donc, à Angers, en juillet ou en septembre, en fonction du planning. C'est une piscine en inox. A priori, je pense qu'elle sera fabriquée localement.
D'accord.
Il y a plein de possibilités. Voilà. Moi, c'est ce que j'aime bien. Je n'ai pas de standard. J'adapte le mode constructif. Alors, j'ai des produits de base. Hein. Je vous ai cité une marque tout à l'heure à qui je m'entends très, très bien. Mais si on me demande un mouton à cinq pattes, ben, alors là, ça va m'amuser. Là. Et je vais essayer de le trouver localement. Et je fais pas mal le réseau et c'est bien, ça m'aide parce que je me rends compte qu'on a, on a des possibilités localement, mais qui sont énormes, énormes. Rencontrons-nous, on a plein de choses à faire ensemble localement.
Et alors justement, est-ce que vous organisez des fois des événements ou des portes ouvertes pour faire connaître Air Piscine? Est-ce que vous avez un showroom par exemple?
Je l'ai même pas fait. Enfin si, j'ai fait une soirée réseau avec des amis l'année dernière. Devinez où, à la maison, autour de la piscine. Quoi. Ça, c'était sympa. En fait, en même temps, pour réunir des gens, j'avoue que franchement, ça marche pas trop mal quand on leur dit on fait un barbecue autour de la piscine, les gens ont envie de venir.
Ah ouais, c'est clair, c'est sûr.
Donc j'invite tous les auditeurs de Radio G, prochaine soirée Air Piscine.
Chez vous.
Vous communiquerez la date, bien sûr.
Ah bah oui, sans problème. Il faut essayer d'avoir un peu de monde chez vous quand même.
Oui, oulala. Après, il y a les voisins.
Voilà. Et on peut dire finalement que la création de piscine a quand même un impact plutôt social dans la vie des gens, non? Et dans le bien-être?
Ceux qui vivent dans une maison avec ou sans piscine ne le vivent plus de la même manière, clairement. Bizarrement, on part moins au week-end, on reçoit plus de monde, ça crée une ambiance. L'eau, c'est un élément qui calme, qui détend. C'est beau. Et le beau fait du bien, je trouve, comme l'architecture, comme l'art. C'est vraiment des éléments dont on n'a pas assez, je ne parle pas de piscine en général, hein, mais d'art et de beau, on n'en rencontre pas assez au jour le jour. Et je trouve que les piscines, ça contribue aussi à ça, à du bien-être.
Tout à fait. Là, nous sommes au mois de mars. Et, est-ce que c'est la bonne période de l'année pour concevoir sa piscine ou est-ce qu'il y a une période justement dans l'année où il y a plus de facilité?
Si on peut éviter de faire comme on est trop nombreux à le faire, aller au garage juste avant de partir en vacances, c'est pas mal parce que forcément les plannings sont encombrés. Si on s'en occupe en septembre, à la rentrée des vacances, août, enfin septembre-octobre, fin d'année pour l'année d'après, bah là c'est génial, on a le temps de réfléchir, de prendre son temps, hein, parce qu'effectivement on a un métier qui est très très saisonnier, qui est lié aux conditions météo, qui sont pas super d'ailleurs depuis le début de l'année, et qui n'ont pas été terribles en fin d'année dernière, donc ça nous contraint, mais ça se comprend aussi. Donc on travaille beaucoup de janvier jusqu'à septembre-octobre, et puis le reste de l'année c'est un peu plus calme.
Ouais, est-ce que vous avez déjà eu des personnes qui, avec les grosses chaleurs, pensent dire « Ah là, il faut que je fasse construire une piscine » et vous appellent en urgence en disant « Combien de temps il me faut pour construire ma piscine ?»
Oui, ça m'est déjà arrivé. Pour construire une piscine, il y a différents modes constructifs, mais celui que j'utilise va très, très vite. Et d'ailleurs, il est reconnu par bureaux d'études. Ça répond énorme, bien précis, il y a des avis techniques, donc c'est pas parce que ça va vite que c'est mal fait, mais en trois jours, moi je vous fais une piscine. Un jour on terrasse, le deuxième jour on pose tous les murs Unibéo, le troisième jour on coule le béton dans les murs et le fond en même temps, à la fin du troisième jour, la structure de la piscine est terminée.
Ok, après vous avez fini vos engins. Il y a plus qu'à remplir.
Après, il faudra... Non, il faut quand même mettre un liner pour étanchéiter, une machinerie, un volet si vous voulez. En six jours non consécutifs, on fait une piscine, chère piscine. Et une piscine haut de gamme, sur mesure, éco-responsable. Oui, c'est possible.
Et alors justement, le côté éco-responsable, donc vous le mettez en place donc, chez Air Piscine. Et vous, dans votre quotidien, qu'est-ce que vous faites pour être éco-responsable?
Eh bien, j'essaie de trouver des fournisseurs locaux. Ça, je trouve que c'est déjà pas mal. Je suis en train de réfléchir à l'empreinte carbone d'Air Piscine. Parce que c'est bien de dire qu'on est éco-responsable, mais est-ce qu'à un moment donné, on est capable de balayer devant ses choix, chez soi pardon, et de dire « je produisais tant, demain, j'essaie de me fixer tel objectif ». Ça, c'est le sujet du moment. Et puis, un autre point aussi, par exemple, on chauffe les piscines avec des pompes à chaleur. Est-ce que demain, on ne pourrait pas chauffer les pompes à chaleur avec des panneaux solaires photovoltaïques? Et puis, si on le fait pour la pompe à chaleur, pourquoi on ne le ferait pas pour la maison? Voilà, Air Piscine est en train de créer une petite sœur qui s'appellera Solaire et qui produira du photovoltaïque. C'est en cours.
Un petit scoop, oui. C'est bien. merci pour ce scoop. Donc, on peut imaginer que l'entrepreneuriat, finalement, c'est, ça vous plaît.
Oui. Je n'ai pas toujours réussi, d'ailleurs, dans l'entrepreneuriat. Un jour, je me suis dit, plus jamais je recommencerai. Puis, en fait, je crois que j'ai ça dans la peau, quoi. À chaque fois que j'étais salarié, on trouvait que je débordais trop. Je suis peut-être un peu trop créatif. Mais non, franchement, je pense que je suis taillé pour ça. J'adore ça.
Ouais. Donc... une entreprise, une deuxième en cours, et puis peut-être d'autres à venir.
Je ne sais pas, j'ai essayé de faire bien ce que je fais, déjà. Les piscines, je pense que c'est pas mal. Photovoltaïque, c'est assez bien parti. Mais je veux donner du sens à ce que je fais. Donc, je ne veux pas être multi-chef d'entreprise. Je veux simplement me lever le matin pour aussi faire des journées où je fais des choses qui me plaisent.
Ok. Vous avez parlé des réseaux tout à l'heure. C'est un peu, effectivement, c'est une importance considérable, notamment au niveau local. Vous êtes investi dans beaucoup de réseaux ou pas du tout?
Alors, réseau physique, oui, parce que j'aime bien rencontrer les gens. À un moment donné, les réseaux sociaux, c'est pas mal. Ça permet de communiquer plus facilement, de trouver une audience plus large. Mais les réseaux physiques, j'aime beaucoup. Ça permet de voir les gens face à face. On apprend à se connaître, on discute. Et ça permet de mettre en relation plein de gens, mais quelle que soit leur profession. Hein. Demain, on peut avoir besoin d'un avocat, d'un expert comptable, de quelqu'un qui fabrique des étiquettes, d'un carreleur, enfin, n'importe qui.
Ouais, donc effectivement, c'est important.
Oui.
Ouais, carrément. Et est-ce que vous faites aussi des salons à l'extérieur de l'Anjou, par exemple?
En tant que visiteur, oui. En tant qu'exposant, non.
D'accord.
Clairement, non. Pourquoi? Parce que je n'ai pas prévu de toucher ma clientèle dans ce genre d'endroit. Enfin, je ne veux pas faire le... Comment dire? Le bagel, c'est pas ça, mais... Je trouve que le temps que ça prend, l'énergie, le coût, pour l'instant, ne me donne pas l'impression que ça apporte un retour intéressant pour l'activité que j'ai, avec la clientèle que j'ai. Il y a des gens pour qui c'est très bien. Pour moi, je ne pense pas.
Ok. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc, les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes, justement? Vous parlez de réseaux sociaux. En off, vous parlez que vous aviez quelqu'un qui vous aidait aussi pour ça?
Oui, Mathéo Simon, mon alternant que je salue, qui fait un travail. Alors, il est alternant, mais je peux vous dire que c'est un vrai pro et je vais le voir partir fin juin avec regret. On est présent sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn. Voilà, pour les principaux.
Pour les principaux,
ouais. Oui. Vous retrouverez deux publications par semaine, le mardi midi et le jeudi midi.
Ah oui, effectivement, ça fait, c'est pas mal déjà.
Mais c'est important parce qu'on est dans un monde... Enfin, il y a une pression d'information à tous les niveaux. Et puis, il faut être présent pour une question de référencement aussi. Ça, c'est un autre sujet. Hein. Mais bon, les algorithmes des principaux opérateurs Internet sont suffisamment bien faits pour nous obliger à rentrer dans le système si on veut avoir un minimum de clientèle.
Complètement. Et oui. Et oui, l'émission Les Voix de l'écho hein, touche à sa fin. Merci beaucoup hein, Bernard Rombaud-Pasquier d'être venu
nous parler
d'air piscine et de bonheur aquatique. Merci à Hervé Chénoé et Morgane Nectou pour leur chronique. Merci de suivre l'actualité de l'émission sur les réseaux sociaux justement et sur le site lesvoixdelecho.fr. Et plus largement, merci à toutes les personnes qui m'ont permis de préparer ce magazine des entrepreneurs de l'Anjou. Vous pouvez écouter le replay de cette émission sur le site de la radio. On se retrouve le mercredi 20 mars, donc de midi 10 à 13h sur le 101.5 FM ou via le web sur le site radio-g.fr. Nous parlerons de seconde main et de matériel sportif. Prenez soin de vous et merci d'avoir choisi d'écouter un Radio G.